Vous écoutez RTL, l'angle éco.
Phil Knight, le fondateur de Nike, numéro 1 mondial de la chaussure de sport, voulait nous en parler ce matin, François Langlais, car il vient d'annoncer qu'il va prendre sa retraite à 77 ans.
Oui, ça conserve la chaussure de sport, 77 ans. L'histoire de cet entrepreneur génial, père de Nike, mais aussi de la mondialisation moderne, commence dans l'Oregon. C'est un état de la côte ouest américaine. C'est avec son entraîneur qu'il a l'idée de lancer une gamme de chaussures de sport alors qu'il est étudiant. La révolution, c'est qu'elles seront fabriquées au Japon pour profiter des coûts du travail, à l'époque beaucoup plus faibles là-bas. Il les vend lui-même, ses chaussures, avec un stock chargé dans le coffre de sa voiture. 15 ans plus tard, lui et son associé créent Nike. Là encore, la particularité est la fabrication à l'étranger, avec des coûts beaucoup plus faibles, alors que ses concurrents européens, Adidas et Puma, continuent à fabriquer en Europe. Pour tester les nouvelles semelles qui feront la fortune des modèles, son associé fait fondre du latex dans un moule à gaufres. La waffle, ça veut dire gaufre, ouais. Le premier modèle à succès est né et les ventes décollent.
Et pourquoi disiez-vous tout à l'heure, François, que c'est au fond l'un des inventeurs de la mondialisation?
Parce que tout au long des années 80, il a développé ses usines en Asie, quittant le Japon devenu trop cher pour la Chine, l'Indonésie et maintenant le Vietnam. Dans les années 2000, Nike avait 700 usines dans le monde et ça a été le premier à monter des chaînes de production globalisées avec la fabrication dans les pays émergents et puis la valeur ajoutée, c'est-à-dire le marketing, le design, aux États-Unis. C'est aujourd'hui le modèle Apple et celui de la plupart des produits de grande consommation. C'est lui qui l'a inventé.
Et Nike a été beaucoup critiqué pour ça.
C'est vrai. Dès les années 90, on lui reprochait d'exploiter indirectement les enfants, d'utiliser des cols toxiques dans ses usines asiatiques. L'entreprise a alors multiplié les efforts pour moraliser ses sous-traitants parce qu'elle a vite compris le risque de réputation qu'elle encourait. C'est la première World Company qui a été aux prises avec la société civile et ses revendications. Elle est encore prise à partie régulièrement. Il y a quelques mois, une gigantesque grève a éclaté dans une usine chinoise où sont fabriqués les produits Nike et Adidas. Et aujourd'hui, bon, ils commencent quand même à fabriquer aussi aux États-Unis grâce à l'automatisation industrielle.
Alors Nike est aussi une marque mondiale, on la connaît aussi parce qu'elle est associée à des sportifs de premier plan.
C'est l'autre invention de Phil Knight, c'est le marketing par les stars du sport. Il y a une quarantaine d'années, le tennisman John McEnroe, ouais. Vous souvenez de ça, a arboré lors d'un tournoi sa première paire de Nike à l'époque. C'était une marque assez obscure. Avant McEnroe, les chaussures en question s'étaient vendues à 10 000 exemplaires, après 1 200 000. Oh. En 84, Nike signe avec le basketteur Michael Jordan, qui devient son ambassadeur, et puis l'entreprise multiplie les coûts. Dernier contrat en date, l'achat des maillots de la NBA, l'équipe de basket américaine. Et il y aura même le fameux swoosh, c'est-à-dire, vous savez, la marque de Nike. Voilà, la virgule sur le ballon. Et tout, ça a quand même coûté 1 milliard de dollars
pour le contrat NBA, c'est-à-dire voilà. Toutes les équipes de basket américaines sur plusieurs saisons. Alors si le fondateur de Nike s'en va, que va devenir l'entreprise?
C'est l'actuel directeur général qui prend les commandes, donc pas de changement profond. Nike reste le plus gros actionnaire de l'entreprise, son fils est entré au conseil d'administration, et puis quant à l'entreprise, elle fait entre 20 et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle continue à faire la course en tête devant Adidas grâce à l'engouement planétaire pour ce qu'on appelle en anglais l'athleisure, c'est-à-dire les vêtements de sport qu'on porte, non pas pour faire du sport, quelle idée, mais tout simplement pour s'habiller, parce que c'est confortable. Oui. La planète entière a adopté cette mode. Prochaine cible pour Nike, la clientèle des femmes, qui ont maintenant leur propre magasin Nike dans certaines villes.
C'est-à-dire qu'il y a des magasins pour hommes, des magasins pour femmes?
Oui, absolument.
C'est incroyable le marketing moderne.
Et ça marche.
Merci François Langlais.